Ceci est une émission de radio.
Nous interrompons notre émission pour un message urgent.
Je le répète, ceci est une émission de radio.
99.1.
I feel a vibration.
Bonjour monsieur.
I feel it.
Suite, monsieur.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur 99.1 Radio HDR, vous le connaissez. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur, j'ai envie de dire le plaisir, de recevoir une écrivaine qui a écrit le livre « L'histoire d'une famille algérienne », Zouliha Abba. Bonjour madame.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages, moi j'ai eu la chance de connaître celui-ci. L'image de couverture est assez belle. On se retrouve dans Alger la Blanche, une grand-mère accompagnée d'une petite fille.
Oui, c'est moi. C'est moi avec ma grand-mère, algéroise.
Pourquoi avoir voulu écrire ce livre avant que nous rentrons, bien sûr, dans plus de détails?
Bien, le but premier, c'était pour transmettre, en fait, à mes proches, une histoire, mon histoire, ma vie en Algérie. Au fil de mon écriture, j'ai pensé que c'était très important, en fait, de raconter notre vie en Algérie, à l'époque des Pieds Noirs, bien sûr, et de l'Algérie française. Et ça m'est en fait apparu comme étant une priorité pour expliquer en fait la raison de ma présence à Paris en fait. Voilà, je ne pouvais pas répondre à une question plutôt qui me disait pourquoi êtes-vous arrivé à Paris par une seule réponse. Donc écrire un livre, c'est faire un cheminement intérieur et puis en même temps expliquer ce qui a fait que j'ai quitté l'Algérie pour la France.
En quittant l'Algérie pour la France, moi je vais essayer de schématiser un peu le livre qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence par la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec votre père qui revient
après 4
d'une,
ans,
oui. d'une guerre... meurtrière et déchirante parce qu'elle a été mondiale, elle a touché plusieurs pays et plusieurs nations. J'ai découvert aussi au tout début du livre une petite fille touchante au sens où un lien fusionnel avec sa grand-mère, Mani. Un mot que je connais assez bien. Justement, cet amour entre une petite fille et sa grand-mère, cette relation fusionnelle qui a été dans la Casbah, dans les rues d'Alger, où on sent que protéger sa grand-mère, protéger sa famille est une notion importante dans une culture de famille algéroise.
Oui, en fait, moi, étant petite fille, j'étais assez timide, assez introvertie. Et ma grand-mère faisait partie du FLN. C'est une femme qui a été très active à la Casbah. Mais je ne le savais pas à l'époque, bien sûr. Donc elle m'amenait partout, elle me faisait connaître la Casbah, les environs, pratiquement tout Alger. Et je la suivais et je l'admirais. J'admirais sa force, j'admirais son courage. Et ça m'a beaucoup marqué étant enfant. Parce qu'elle représentait en fait la force de la femme, ce que je voulais vraiment devenir. Et elle a été un exemple pour moi.
Alors que votre grand-mère, en plus, elle a eu une souffrance. La perte d'un enfant, la perte de la vue aussi. Donc c'était des moments forts. Et puis vous, comme vous le disiez, dans le livre, on voit le récit d'une petite fille timide dans les années 50, qui s'installe petit à petit dans le temps, qui grandit avec le portrait de sa tante qu'on renvoie sur elle constamment. C'est des notions où la famille... En fait, on rentre dans l'intime.
Oui, la famille joue un rôle très important en Algérie. Et moi, je représentais en fait le modèle parfait d'une Algéroise, timide, polie, bien élevée. J'étais en fait pareil à l'école d'ailleurs. Mais au fond de moi, c'était tout l'inverse. J'étais révoltée et contre la société telle que je la voyais en fait. Et pour moi, dès l'enfance, mon objectif en fait, c'était de lutter contre ça, de ne pas accepter que l'on m'impose en fait des traditions, des coutumes. Je voulais cheminer par moi-même et j'ai eu quand même du temps en fait à y arriver. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, ce cheminement, ce parcours, cette révolte en fait intérieure qui vous pousse un peu comme un moteur. C'est un peu malgré moi en fait. Hein. Et j'étais convaincue que j'allais partir, depuis toujours. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose qui est en soi.
Le passage sur l'école, parce qu'on parle de l'enfance, donc on va essayer de donner des éléments à nos auditeurs. Le passage sur l'école coranique est très intéressant. Se rendre compte qu'en vérité, ce qu'une école coranique a fait subir à des enfants, on peut le retrouver aussi dans des écoles classiques en métropole, comme on disait à l'époque, comme Bétaram ou autre.
Oui, moi j'étais... à l'école catholique, une école privée, à l'époque c'était les sœurs à Cornette, hein, de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, dans mon quartier français où je vivais avec mes parents. Et le jeudi, on allait étudier l'arabe à la Casbah en cachette, parce qu'il n'y avait pas d'école arabe à Alger à mon époque. Et on était frappés, je dirais, hein, quand on se trempait dans les récits ou qu'on faisait une petite erreur, et ben on était frappé sur les 5 doigts de la main avec une baguette d'olivier. Ça faisait un mal de chien. Et ça m'a un peu éloignée de cet enseignement, je dirais.
Surtout quand il y a un passage du livre que vous décrivez, le professeur, la personne qui enseigne, met une petite fille à côté d'elle, lui touche des parties intimes, enfin, on sent aussi une pression morale.
Oui, c'est vrai. Et grâce à Dieu, en Algérie, Alger, je pense dans toutes les villes algériennes, on nous apprend en fait à ne pas accepter ça, ne pas se laisser toucher, ne pas laisser quelqu'un nous agresser physiquement. Et donc, ça a toujours fait partie de notre éducation des filles. Garçons, je suppose aussi, mais c'était plus les filles. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Grâce à Dieu, j'ai réussi à en parler, j'ai réussi à ne plus aller dans cette école.
Et continuons un peu dans cette période des années 50. Au moment de 1954, comment une petite fille de cette époque-là prend les événements, parce qu'à l'époque on appelait ça des événements, d'un début mais de révolution.
En fait, on n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait dans tout le pays. Parce qu'à Alger, ça a commencé plutôt pendant la bataille d'Alger, hein, les années 60. Il y avait, faut se remettre dans le contexte, donc il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de... Et même les infos étaient réservées aux adultes. Hein. Et donc pour moi, ça, c'était pas concret. J'ai mis quand même du temps à réaliser ça. Le jour où à Alger, il y a eu donc ces quartiers, il y avait des tirs de mortier en fait, hein, des tirs de mortier des quartiers arabes vers les quartiers français et vice versa. Et là, on a commencé vraiment à comprendre qu'il y avait vraiment un problème. Bon, je parle des enfants, hein, bien sûr.
Et justement, dans le récit du livre, on voit aussi que votre grand-mère vous emmène partout avec elle. Elle s'appuie sur vous quand il y a de la foule. Quand il y a du monde, on est pris en fait. Et moi, pour être la nouvelle génération aussi d'une famille algérienne, on se laisse porter. En fait, notre imaginaire, notre histoire familiale se laisse porter par votre récit.
Moi, ce qu'on doit dire sur les grand-mères en fait algériennes, c'est qu'elles sont les mémoires en fait de toute leur famille, de leur mère, de leur grand-mère. Et ce qu'elles nous apportent, ça n'a pas de prix en fait. Et elle connaissait tout de tête, en fait. Hein. Elle pouvait vous raconter des histoires avec des détails incroyables. Elle connaissait énormément de choses sans avoir jamais été à l'école. Cette transmission orale qui est très importante dans le monde arabe ou en Algérie, longtemps je l'ai un peu dénigrée en pensant que c'était peut-être des fables ou elles n'avaient peut-être pas... elles inventaient ou... Eh ben non, plus je grandissais, plus je pouvais en fait découvrir à travers les livres que ce qu'elle disait était vraiment une réalité. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je commençais à accorder de l'importance à la tradition orale.
De ça, à cette époque-là, on imaginait qu'on voit que les femmes ne participaient pas à la révolution, à l'indépendance ou comme en métropole on pouvait appeler à la guerre, et encore le nom de guerre d'Algérie est venu bien plus tard, mais du moins aux événements, on n'imaginait pas que c'était les femmes, on pensait que c'était les Fedaga, donc les hommes, dans les montagnes.
Je crois que sans les femmes, ils n'auraient rien pu faire. Elles préparaient la nourriture, elles soignaient les malades, elles transportaient des messages, elles cachaient des gens, ma grand-mère cachait des moujahidettes hein, chez elle à la Casbah. Elle les faisait fuir, elle faisait face en fait aux militaires, elle n'avait pas peur. C'était une maîtresse femme dans tous les... et pas qu'elle, hein, il y en avait énormément des femmes comme ça, très fortes, et qui faisaient ça instinctivement. Vous savez, elles sont très protectrices et très fortes en fait. En Algérie, je pense que c'est dû en fait à la colonisation, où pendant des décennies, les femmes ont lutté pour se protéger contre les envahisseurs, pour protéger leurs enfants, protéger leurs biens. Elles ont été le socle, en fait, qui a fait, en fait, l'Algérie. Hein, c'est...
Parlons maintenant un peu de votre père, si je puis dire, où lui aussi avait un rôle important dans votre vie.
Oui, mon père était, était un... Il a été en pension à l'âge de 10 ans à l'école du Jardin d'Essai à Alger. C'était une école qui était fréquentée que par les Français. Mais il était très doué. Et je raconte sa vie dans le tome 2 de ma saga. Quand il y a eu la guerre, donc il est parti, il a été mobilisé pendant 4 ans dans le 5e régiment des Spahis. Et quand il est revenu, il a été démobilisé. Ma mère nous raconte qu'il était resté prostré pendant très longtemps. Il n'a jamais raconté ce qui s'était passé pendant cette guerre. C'était un taiseux, en fait. Hein. Il a gardé toujours ça pour lui. Mais quand ses amis de l'armée lui ont proposé un poste de commissaire à Alger, il a refusé. Il a refusé parce qu'il savait que les événements algériens allaient exploser et il ne voulait pas faire face à ses frères à cause, en fait, de... Je dirais la trahison, entre guillemets, de la France, hein, qui avait promis aux Algériens qu'ils auraient leur liberté. Il ne faut pas oublier que nous étions indigènes. Nous n'étions pas français. Donc, malgré qu'il était ingénieur, hein, des petits boulots, il a travaillé... À l'époque, on était journalier à Alger. On allait au port, on déchargeait des sacs, on avait le salaire journalier, puis on rentrait. Et c'est là qu'il a adhéré au FLN.
Front de libération
voilà,
nationale.
Donc il a refusé d'aller prendre les armes et d'aller au maquis, parce que je pense qu'il avait déjà donné pendant 4 ans de sa vie à l'armée, mais il a travaillé à Alger avec le FLN. Ouais.
C'est surtout que quand on se replonge dans le récit de l'histoire d'une famille algérienne, on se rend compte que l'Algérie, par rapport à d'autres pays qui ont été colonisés par la France, c'était aussi un département. Je crois même que dans l'histoire française, en dehors des territoires dits mais d'outre-mer, c'est le seul pays qui a été considéré comme un département français.
Ouais, c'était nos ancêtres, les Gaulois. Hein. Moi, je me souviens, on chantait la Marseillaise, on la connaissait par cœur. On chantait les chants religieux, puisque j'étais à l'école catholique. Et on faisait partie des scouts, donc je faisais du scoutisme. Je veux dire, on allait en colonie de vacances en France, j'étais gamine, hein. Dans le sud de la France, on allait en avion en France. Je veux dire, moi j'étais, comme disait mon père, une privilégiée à Alger. Hein. Je pense que ce n'était pas le cas de tous les Algériens qui vivaient dans les
territoires reculés.
Ça, moi je l'ai su, j'ai appris en fait comment vivaient ces autres Algériens à l'indépendance, le jour de l'indépendance.
J'ai aimé ce passage... du jour de l'indépendance. Parce qu'en fait, vous l'avez raconté de façon où, en fermant les yeux, on s'y voyait. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, en fait, je crois que l'Algérie a eu un destin exceptionnel. Un destin rare hein, pour un pays, je trouve. Et du jour au lendemain, on se retrouve indépendant. C'était une surprise pour beaucoup. Parce que bon, c'était quand même la France. Bon, comment la France est parti comme ça du jour au lendemain, c'était un peu comme un miracle. Et là, nous, les Algérois, on vivait à l'européenne, il faut le dire, et on a vu débarquer de toutes les régions d'Algérie, enfin tous ceux qui ont pu se déplacer, arriver en haillons, mais malgré ça, ils avaient amené avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux, soit un mouton, soit un âne, soit une chèvre, et ils les avaient... Il leur avait mis des drapeaux. Ils avaient peint les cornes des animaux en vert, blanc. C'était très émouvant. Ils pleuraient. Je me souviens, on avait ma grand-mère qui était donc dans le FLN, je le répète, nous avait prévenu qu'il fallait nourrir ces gens-là. Donc tous les gens les nourrissaient, les Algérois. Donc on avait acheté des bananes, parce qu'il y en avait à l'époque. Ça arrivait par bateau. Et c'était des régimes, on n'achetait pas des kilos de bananes, on achetait des régimes de bananes. Et on leur donnait, ils ne savaient pas qu'il fallait éplucher une banane pour la manger. Et ça nous a énormément émus. Ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais vu une lampe électrique. Ils ne savaient pas comment éteindre cette lumière, vous voyez. Donc, c'était émouvant. On pleurait, c'est vrai.
On peut le dire à nos auditeurs, les villes développées à l'époque, c'était Alger, Oran, Constantine, mais sinon, le reste de l'Algérie, C'était la campagne encore plus profonde qu'en France. C'est-à-dire que c'était vraiment des territoires très reculés. Oui. Sachant qu'en plus de ça, pendant l'indépendance, il y a eu de nombreux villages qui ont été décimés.
Oui. Vous savez, par exemple, je ne sais pas comment étaient certaines villes à l'époque, parce que j'étais quand même jeune, et puis il n'y avait pas de communication, en fait, à ce propos.
On n'avait pas Google Maps pour regarder les villes aux alentours de nous.
Et des fois, on avait des gens qui venaient faire des formations du Sud, beaucoup du Sud. Les gens du Sud ont toujours été très... ils aimaient s'instruire, en fait, les gens du Sud. Et ces gens-là, ils nous parlaient, ils nous disaient, nous, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais sans plus, quoi. Donc, ils venaient faire leurs courses aussi, à Alger, il y avait tout. Quand on a découvert, en fait, ce qu'étaient vraiment les Algériens, ceux qui sont venus, en fait, surtout ceux qui sont venus de Kabylie. C'était la région la plus proche d'Algérie. C'était une horreur, quand même. Une horreur de les voir, de voir leur misère. Et on les a hébergés, on les a nourris. On était vraiment... Je crois que j'oublierai jamais cette fraternité. C'était quelque chose d'unique. On était tous des frères et sœurs. On n'a pas dormi, je crois, pendant 3 jours et 3 nuits. Nos parents ne nous recherchaient même plus, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir le soir. Et ça a été comme ça pour tout le monde.
Une liesse populaire.
Oui,
une forme de libération du peuple. Un peu ce que la métropole a vécu en 1945. C'est-à-dire une libération d'une emprise installée depuis des années, une pression qui redescendait. Parce que
il y a
une déchirure des deux côtés.
Ce qu'il y avait de beau à Alger, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes à Alger. Et il y avait des parcs, des jardins publics où il y avait des kiosques à musique. Et il y avait des orchestres partout. Et on voyait les gens qui venaient pour la première fois, qui voyaient les Algériens jouer de la musique et tout. Ils étaient émerveillés de voir ça.
Et après l'indépendance, comment c'est avant que, bien sûr, on va parler de votre arrivée à Paris, mais justement les années 60 où vous êtes arrivée adolescente, voire jeune adulte, raconte-nous un peu cette épopée que on ne connaît pas trop parce qu'on se souvient un peu de 62, et après, la mémoire collective va tomber directement sur les années de la décennie noire. Mais l'entre-deux, on n'en parle pas tant que ça.
J'ai un libraire qui m'a fait la même réflexion que vous, et qui a présenté justement mon livre à un concours, parce qu'il m'a dit on ne connaissait pas cette période, parce que l'Algérie, quand même, avec Boumediene, il a un fait fermer les frontières et ça a duré presque 20 ans. Mais pour les Algérois, ce qui nous a choqué, parce qu'il y avait Bembella avant.
Et coup d'état militaire de Boumediene.
Quand il y a eu ce coup d'état, il y a eu des chars. Boumediene a mis des chars à Alger. Et il y avait beaucoup d'étudiants algérois qui étaient quand même très francophones, qui ont milité, enfin qui ont manifesté plutôt. C'est les premiers chocs, en fait, pour cette génération d'Algérois. Et donc, ça a été réprimé par la force, il y a eu beaucoup de morts. presque tous, la majorité, il y a eu beaucoup de morts. Et ça, là a commencé un traumatisme, en fait, pour les Algérois. Et surtout ceux qui étaient francophones. Bon, après, il y a eu le départ des Français dans les administrations, dans les postes, partout, en fait. Et surtout dans les administrations. Et là, il y a eu appel aux Algériens qui étaient francophones, qui pouvaient prendre la relève. Donc là, je le raconte dans mon livre, comment ça s'est fait. Et en même temps, cette façon de nous traiter comme des ennemis, parce qu'il y a eu des étudiants qui ont manifesté. Mais c'était bon enfant, en fait. Parce qu'on aimait bien Ben Bella, il était souriant, c'était un homme avenant. Et comme tous les gens de l'Ouest, c'était des gens sympathiques, les gens de l'Ouest.
Alors que Boumediene, lui, était beaucoup plus conservateur, beaucoup plus surtout, basé sur la religion, beaucoup plus aussi voulant réinstaurer une histoire algéro-algérienne.
C'est-à-dire qu'il a fait ses études en Jamaa Zetouna à Tunis, il était arabisant, et c'est surtout son physique, il était trop sérieux, et c'était un homme qui avait une très très forte personnalité.
Colonel.
Ah oui, une très forte personnalité, ceux qui l'ont connu ne pouvaient pas soutenir son regard, pour vous dire la force qu'il avait. En fait, quelque part, c'était une bonne chose qu'il soit venu, parce que c'est lui qui a construit les bases de l'Algérie grâce à sa force, grâce à sa détermination. Ça s'est fait dans la douleur. Pendant 20 ans, ça s'est fait dans la douleur. Parce que ceux qui en ont subi les conséquences, c'est le peuple, c'est les petites gens qui ont eu beaucoup de mal parce que tout était bloqué. Et c'était une période où il n'y avait pas grand-chose.
On dit souvent que l'Algérie, même encore au jour d'aujourd'hui, on lui reproche d'être un État militaire et non pas démocratique.
Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que l'armée algérienne, elle est adorée par le peuple algérien. Toute l'armée. Et il n'y a pas un seul Algérien qui n'ait pas un oncle, un cousin, un voisin dans l'armée. C'est l'Algérie, l'armée. Et je crois que tous les Algériens sont fiers de leur armée. Parce qu'en fait, l'armée, elle s'occupe que de défendre l'Algérie. Jamais, jamais, ils n'ont abusé de leur autorité sur les Algériens. Moi, je parle en tant que peuple.
Non, mais comprenez ma question, parce que je sais des choses, mais je veux dire que pour nos auditeurs, l'image en fait, que l'Algérie, des fois, renvoie, c'est que c'est l'armée qui décide. Ce n'est pas, on va dire, le pouvoir politique. Oui. Comme on dit, on va prendre l'exemple très connu en France, le général de Gaulle. Certains récits disent comme quoi que quand on lui a opposé les pouvoirs entre l'armée et le pouvoir politique, le général de Gaulle a répondu par « le pouvoir politique ordonne à l'armée ». Alors que là, souvent, il y en a qui jugent comme quoi que c'est le pouvoir militaire qui ordonne au pouvoir politique.
Moi, je pense, d'après mon ressenti et celui de ma famille, c'est qu'en fait, l'Algérie, elle a été en révolte depuis l'émir Abdelkader. Donc ils ont construit en fait une mémoire militaire, une mémoire de protection. Et ça se ressent aujourd'hui encore, même dans les banlieues françaises, cet instinct de rébellion et de protection. Et l'Algérie est en train de se construire, c'est un pays qui se construit. Donc il a besoin d'une armée forte pour se protéger et contre ses voisins et contre ceux qui pourraient l'envahir ou le coloniser. On voit bien que l'Algérie est toujours sur ses gardes. Elle commence petit à petit à s'ouvrir aujourd'hui, mais à petits pas. Je pense qu'ils ont été, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc l'armée est un pilier nécessaire pour les Algériens. Il y aura sûrement une démocratie dans le futur, mais pour l'instant, elle est nécessaire pour tenir un pays qui est quand même 4 fois plus grand que la France. Il ne faut pas oublier le territoire, avec les différentes régions et leur culture, ces frontières qui sont quand même très importantes. C'est qu'il faut quand même protéger un pays, protéger une culture, protéger un territoire. Donc ils mettent le paquet sur l'armée, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et on le voit bien à travers le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Si on n'est pas prêt à défendre son pays, ben on se fait envahir ou coloniser une seconde fois. Donc c'est voilà, ma réponse, c'est ça.
C'est des fois aussi, bah justement, vous le dites aussi à travers vos mots et puis à travers l'histoire du livre aussi. C'est aussi le récit d'un peuple, génération après génération, qui a connu aussi la misère, une forme d'esclavage où on ne le considérait même pas comme citoyen plein et entier, on le considérait comme des indigènes.
Oui.
Comme des indigènes. Et même en libérant la métropole, ils étaient encore considérés comme des indigènes.
Oui.
Au moment des événements de Sétif en 44-45, le général Duval avait écrit « Je vous ai donné la paix pour 10 ans en Algérie » dans un rapport. Oui. Si sur les 10 ans, il n'y a rien qui change, ça recommencera et ça sera pire. Et effectivement, je crois qu'il s'était trompé d'une année.
Oui, je pense que dans la mémoire collective, moi je tiens ça de la famille de mon père, donc Sidi Bel Abbès, et ils nous ont dit que leurs parents, leurs grands-parents, moi dans la famille de mon père, ils ont combattu avec l'émir Abdelkader, Téléoulet Brahim, et c'était des guerriers, hein, c'était une tribu guerrière, hein, c'était pas des agriculteurs. Hein. La France en a fait des agriculteurs, mais à l'origine, ils étaient guerriers, à cheval, avec leur... Et c'est pour ça qu'on voit les fantasias en Algérie. J'ouvre une parenthèse. Les fantasias, c'est on mime la guerre, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, c'est resté dans les mémoires. La France est là, mais un jour, elle va s'en aller. Voilà. Ça a toujours été ça. Cette patience, cette endurance. Et dans la famille de mon père, je sais que mon grand-père, qui était... Lui, parlait qu'espagnol, parce que cette région-là a été envahie par l'Espagne, a dit à son fils, toi, tu vas être éduqué en français.